Chapitre 8. 7 mai 2205. Dieu, que les humains sont stupides. Richard, Richard, je t'en supplie, reviens. Par où commencer? Et par quoi? Dans la pièce voisine, Michael et Simone parlent de Michel-Ange. Mon père disait souvent que nous commettions tous des erreurs. Pourquoi la mienne a-t-elle été monumentale? Mon idée était sensée, logique. Mais les hommes ne sont pas toujours sensibles à la raison. Les émotions n'y obéissent pas. La jalousie n'est pas le produit d'une analyse informatique. Les signes prémonitoires étaient pourtant nombreux. L'après-midi où nous allâmes pique-niquer sur la berge de la mer cylindrique, je pus en lire dans les yeux de Richard. Je me dis même « Oh, oh, Nicole, laisse tomber. » Mais il finit par me répondre « Naturellement, ta suggestion est pleine de bon sens. J'irai avec toi l'annoncer à Michael. Il faut en finir le plus vite possible et espérer que tu tomberas immédiatement enceinte. » Je me sentais d'humeur joyeuse. Je ne me doutais pas que Michael aurait des scrupules.
« Ce serait un péché, »
rétorqua-t-il, lorsqu'il comprit le sens de nos propos. Les enfants dormaient, et Richard fit remarquer que ce concept était devenu anachronique, même sur la terre.
« Désirez-vous vraiment que je couche avec votre femme ?»«
S'enquit alors Michael ?»« Non, mais nous devons songer à l'avenir de nos filles. » J'aurais dû prêter un peu plus d'attention à ce nom. Un échec était pour moi impensable. Je surveillais mon cycle d'ovulation, et quand le moment fut venu, j'en informai Richard, qui alla faire une de ses longues promenades à la surface de Rama. Michael était tendu, tourmenté par un sentiment de culpabilité ridicule, mais je n'aurais pu imaginer que cela l'empêcherait d'avoir des rapports avec moi. Nous nous dévêtîmes dans l'obscurité afin de ménager sa pudeur. Puis nous nous allongeâmes et je découvris que la nervosité nouait ses muscles. Je l'embrassai sur le front et les joues, puis tentai de le détendre en massant son dos et son cou. Après une demi-heure de tels préliminaires, qui n'avaient rien d'érotique, je collai mon corps au sien afin d'éveiller son désir. L'absence de toute réaction physique m'apprit que nous avions un problème. Je ne savais quoi faire. Certaine qu'il ne me trouvait pas attirante, je me sentais humilié et mon langage corporel dut traduire ma déception car il me déclara
« Je suis désolé. »
« Il n'y a pas de quoi, » répondis-je en feignant l'indifférence. Je me redressai sur un coude et caressai son visage, son cou et ses épaules. Il restait passif, allongé sur le dos et les yeux clos. J'eusse aimé être touché à mon tour, rassuré sur ma féminité. Je me mis à califourchon sur lui. Mes seins effleuraient son torse et je l'embrassai sur la bouche tout en éveillant son désir par des attouchements plus intimes lorsqu'il me repoussa et s'assit.
« Je ne peux pas, »
fit-il en secouant la tête.
« Pourquoi ?»«
C'est mal. »
Je voulus en discuter, mais il refusa d'ouvrir le débat. Consciente qu'insister eût été inutile, je renfilai mes vêtements. Michael réussit à me souhaiter « bonne nuit » quand je le laissais. Je ne me sentais pas le courage de rejoindre immédiatement Richard et m'adossai à un mur en proie à des émotions violentes. Pourquoi avais-je supposé que tout serait si simple? Que dirais-je à mon mari? Quand j'allais finalement m'allonger près de lui, le rythme de sa respiration m'indiqua qu'il ne dormait pas. Mais je n'osais pas l'informer de ce qui venait de se passer. Me taire fut un acte de lâcheté et une erreur impardonnable. Pendant 2 jours de tension, nul ne parla de ce que Richard avait appelé ma fertilisation. Les hommes tentaient de se comporter comme si de rien n'était. Après dîner, la deuxième nuit, je persuadais Richard d'aller se promener avec moi à la surface pendant que Michael coucherait les enfants. Nous étions debout sur les remparts de la ville et mon mari me décrivait le processus de fermentation de son nouveau vin quand je l'interrompis et pris sa main.
C'est difficile à exprimer.
Qu'as-tu à me dire, Nicky ?
Eh bien, ça concerne Michael. Vois-tu, il ne s'est rien passé entre nous. Il n'a pas pu.
Richard me dévisagea. Tu veux dire qu'il est impuissant ? Je hochai la tête pour m'interrompre aussitôt.
Je ne crois pas,
balbutiai-je.
S'il n'a pu entrer en érection, c'est parce qu'il était tendu, inhibé par un sentiment de culpabilité ridicule, ou encore parce que les préliminaires avaient duré trop.
Je m'interrompis, mais le mal était fait. Richard contempla la mer cylindrique pendant une éternité. « Veux-tu faire un nouvel essai ? » murmura-t-il.
« Je n'en sais rien. »
J'allais lui demander s'il n'y verrait aucun inconvénient lorsqu'il s'écarta et me dit sèchement « Fais-le-moi savoir, quand tu te seras décidé. » Je n'abordai plus ce sujet et un semblant de bonne humeur réapparut progressivement au sein de notre famille. À la fin de mes menstrues, Richard me fit l'amour à deux reprises pour la première fois depuis un an. J'avoue que je me rongeais les sangs, dit-il ensuite. Penser que tu voulais coucher avec Michael, même pour d'excellentes raisons, me rendait fou. Je craignais que nos rapports en pâtissent. Il s'imaginait donc que j'avais renoncé à mon projet, mais je m'abstins de le détromper. Quelques jours plus tard, je me renseignai malgré tout sur l'impuissance dans mon encyclopédie médicale. Ma prochaine ovulation aurait lieu dans une semaine. Richard s'intéressait à la fabrication de son vin et à sa dégustation, car il était fréquemment éméché avant le dîner, ainsi qu'à la mise au point d'autres petits robots. J'étais quant à moi obsédé par le problème de Michael. Je n'avais ni étudié ce sujet à la faculté, ni eu de nombreuses expériences sexuelles, et c'est pourquoi je fus étonné d'apprendre qu'il s'agissait d'un handicap très répandu, aux causes plus souvent psychologiques que physiques, et qu'il existait des moyens de réduire l'angoisse inhibitrice d'un homme. Un matin, Richard me vit préparer mon urine pour un test d'ovulation. Il ne fit aucun commentaire, mais son expression m'apprit qu'il était déçu et blessé. J'aurais voulu le rassurer, mais les enfants étaient présents et je craignais de le voir s'emporter devant elle. Persuadé que Michael serait moins tendu s'il n'avait pas le temps d'y réfléchir, je ne lui annonçais pas que nous ferions une deuxième tentative. Cette méthode faillit être couronnée de succès. Je couchais mes filles, puis l'accompagnais dans sa chambre et lui expliquais ce que j'attendais de lui tout en me déshabillant. Je constatais un début d'érection que je m'empressais d'entretenir en dépit de ses faibles protestations et je suis certaine que nous serions parvenus à nos fins si Cathy ne m'avait pas appelé à l'instant où il était enfin prêt à avoir des rapports avec moi. Je me précipitais dans la chambre des enfants. Richard m'avait précédé et tenait Cathy dans ses bras. Assise sur son matelas, Simone se frottait les yeux. J'étais nu sur le seuil de la pièce et la cible de tous les regards.
« J'ai fait un cauchemar !»
dit Cathy en étreignant son père.
« Un octopode voulait me dévorer.
Te sens-tu mieux à présent ?»
lui demandai-je en allant pour la prendre dans mes bras. Mais Richard la serra contre lui et elle ne se pencha pas vers moi. Gêné, je me dirigeai vers Simone.
« Qu'as-tu fait de ton pyjama, maman ?»
s'enquit-elle. Mes filles me voyaient souvent nues. Nous prenions nos douches ensemble,
mais je portais toujours un vêtement lorsque j'allais dans leur chambre en pleine nuit. J'aurais lancé une réponse désinvolte si je n'avais pas remarqué le regard menaçant de mon mari. « Je me charge des filles, » fit-il sèchement. « Tu peux retourner à tes occupations. » Je revins auprès de Michael pour le regretter aussitôt. Je tentai de ranimer son désir depuis 2 minutes quand il repoussa ma main.
« Inutile. J'ai près de 63 ans et il y a 5 ans que je n'ai pas eu de relation sexuelle. Je ne me masturbe jamais et j'essaie de ne pas penser au sexe. Mon érection était accidentelle. Désolé, Nicole, mais il ne faut pas compter sur moi. »
Nous restâmes allongés sans mot dire pendant plusieurs minutes. Je m'habillai quand je remarquai que le rythme de sa respiration était annonciateur du sommeil. J'avais lu que les hommes souffrant d'une impuissance d'origine psychologique entraient fréquemment en érection lorsqu'ils dormaient, et j'eus une autre idée folle. J'attendis qu'il fût entré dans une phase de sommeil profond. Puis je le caressai avec douceur et fus heureuse de constater qu'il réagissait. J'accentuai la vigueur de mes massages et lorsqu'il fut prêt, je me plaçai à califourchon sur lui. Un peu plus de mesure m'eût sans doute permis d'arriver à mes fins. Il s'éveilla, gémit et me fixa en ouvrant de grands yeux. Sa verge redevint flasque presque aussitôt. Je m'allongeai sur le dos et soupirai, profondément déçu. Michael me posa des questions auxquelles j'étais trop déprimé pour répondre, et ce fut en pleurant que je me vêtis, déposai un baiser sur son front et sortis dans le couloir où j'attendis 5 bonnes minutes avant de trouver le courage de retourner auprès de mon mari. Richard programmait le pozzo d'En attendant Godot. Le petit robot débitait une de ses tirades sur la futilité de toute chose, et après avoir feint d'ignorer ma présence, Richard le fit taire et se tourna vers moi pour me demander sur un ton sarcastique.
« Est-ce que ça a duré assez longtemps cette fois ?»«
Non. C'est un nouvel échec. Je pense que... »«
Ne me débite pas de conneries !» s'emporta Richard. Je ne suis pas un imbécile. Tu n'espères tout de même pas me faire croire que vous êtes resté 2 heures dans son lit sans qu'il ne se soit rien passé. Je connais les bonnes femmes. Elles s'imaginent.
Je ne me souviens pas du reste de sa tirade. Seulement de ma terreur lorsqu'il s'avança vers moi, les yeux brillants de colère. Je crus qu'il allait me frapper et me mis à pleurer. Il me traita de tous les noms et me tint même des propos racistes. Il était fou de rage, et lorsqu'il leva le bras, je pris la fuite dans le couloir. Je faillis percuter Cathy, qui avait été réveillée par les cris et se dressait, hébétée, sur le seuil de sa chambre. Il faisait jour dans Rama. J'y errai en pleurant pendant près d'une heure, furieuse contre Richard et contre moi-même. Il m'avait dit que mon obsession de diversifier le pool génétique de notre descendance n'était qu'un prétexte pour coucher avec Michael et devenir ainsi la reine de la ruche. Trouvait-on une parcelle de vérité dans ces accusations? Si je voulais mener à bien ce projet, n'était-ce pas parce que je souhaitais faire l'amour avec Michael? Je finis par conclure que mes motivations étaient honorables, mais que j'avais été d'une stupidité sans borne. J'aurais dû prendre conscience que c'était irréalisable et renoncé. Richard avait eu raison de qualifier cela d'obsession, mais je savais que je n'avais pas agi ainsi dans le but de changer de partenaire. À mon retour, la chambre était plongée dans l'obscurité. J'enfilai mon pyjama et me couchai, épuisé. Peu après, Richard se tourna vers moi pour m'étreindre et me dire: « Je regrette, ma chérie. Pardonne-moi. » Ce furent ses dernières paroles. Voilà 6 jours qu'il est parti. Cette nuit-là, je dormis trop profondément pour entendre qu'il préparait ses bagages. À 7 heures du matin, je fus réveillé par une sonnerie.
Un message occupait l'écran de l'ordinateur raméen. À l'attention de Nicole Desjardins. Pressez H pour lire. Les enfants étaient toujours assoupis et j'enfonçais la touche. Chère Nicole, je n'ai encore jamais eu autant de difficultés à écrire une lettre. Mon absence ne sera que temporaire. J'ai conscience qu'elle compliquera votre existence, mais il n'y a pas d'autre solution. Je t'aime toujours et je sais, quand la raison domine mes émotions, que tu as agi ainsi pour le bien de nos enfants. Je regrette les accusations que j'ai portées contre toi et surtout les insultes visant tes origines et ta moralité. J'espère que tu me pardonneras et que le souvenir de mon amour sera plus grand que celui de ma colère. La jalousie est un mal redoutable. Elle n'est pas sensible à la raison et elle ronge et avilit ses victimes. Les meilleurs des hommes se métamorphosent en fauves sous son emprise. Je ne t'ai pas tout révélé sur ma séparation avec Sarah. Je la suspectais depuis des mois de coucher avec d'autres hommes lorsqu'elle restait à Londres. Les indices ne manquaient pas, mais je l'aimais follement et craignais tant de la perdre que je n'ai agi qu'après être devenu fou de jalousie. Allongé dans le lit de notre appartement de Cambridge, je l'imaginais faisant l'amour avec ses amants et ma rage était si grande que je ne pouvais m'endormir qu'après l'avoir imaginée morte à mes pieds. La nuit où Madame Sinclair m'a téléphoné, j'ai compris que je ne pourrais plus me bercer d'illusions et je suis allé à Londres dans l'intention de tuer Sarah ainsi que son amant. Heureusement que je ne m'étais pas muni d'une arme à feu et que la colère m'a fait oublier mon couteau. Mais sans doute les aurais-je étranglés si des voisins n'avaient pas entendu les cris et n'étaient pas venus me maîtriser. Tu dois te demander en quoi tout cela te concerne, mais notre comportement est conditionné par ce que nous avons vécu. J'étais devenu ainsi avant notre rencontre. Quand tu as eu des rapports intimes avec Michael, mon passé a refait surface. Je sais que tu es différente de Sarah et que tu ne me mens pas. Mais je réagis comme autrefois. Chose paradoxale, c'est parce que je ne puis concevoir que tu me trahisses, que je crains encore plus de te perdre quand tu couches avec Michael. J'espère que ce que j'écris a un sens. Je pars, car je ne puis contrôler cette jalousie que je sais par ailleurs irrationnelle. Je ne veux pas devenir comme mon père, noyer mon chagrin dans l'alcool et gâcher la vie de mes proches. Je sais que Michael finira par te faire un enfant et que tout sera plus simple si je ne vous impose pas entre-temps ma présence. Je reviendrai, mais je ne saurais dire dans combien de temps. Seule cette séparation provisoire me permettra de reprendre la place qui me revient au sein de notre famille. Dis aux enfants que je suis en voyage. Sois gentille avec Cathy, c'est à elle que je manquerai le plus. Je t'aime, Nicole. Je sais qu'il te sera difficile de comprendre les raisons de mon départ. Mais je te conjure d'essayer. Richard. 13 mai 2205. J'ai passé 5 heures hors de notre refuge et cherché Richard dans tout New York. Je suis allé jusqu'au puits, aux deux filets et aux trois places. J'ai suivi tout le périmètre de la ville en longeant les remparts. J'ai secoué la grille de l'antre des octopodes et suis descendu dans le nid des aviens. De partout, j'ai crié son nom. Je n'ai trouvé aucune trace de lui. Sans doute a-t-il quitté l'île. C'est un excellent nageur et il a pu gagner l'hémicylindre nord, mais les créatures qui peuplent la mer cylindrique l'ont-elles laissé traverser ? Reviens, Richard. Tu me manques. Je t'aime. Tout indique qu'il projetait de partir depuis un certain temps déjà. Il a mis à jour la liste des interactions possibles avec les Raméens afin de simplifier notre existence. Il a emporté un gros sac et B, son meilleur ami, mais il nous a laissé les personnages de Beckett. Nos repas sont lugubres depuis son départ. Cathy est constamment de mauvaise humeur. Elle veut savoir quand son père reviendra et pourquoi il s'est absenté. Michael et Simone endurent leur chagrin en silence. Leur lien se renforce. Ils semblent se réconforter l'un l'autre. Quant à moi, j'essaie de prêter un peu plus attention à Cathy, mais il est évident que je ne pourrai jamais remplacer son père. Mes nuits sont épouvantables. Je ne dors plus. Je pense sans cesse à mes erreurs. Sa lettre est révélatrice. Il ne me serait jamais venu à l'esprit que ses problèmes avec Sarah auraient des répercussions sur notre couple, mais je comprends ce qu'il veut dire en parlant de l'acquisition d'un certain type de comportement. Je retrouve également cela dans ma vie affective. La disparition de ma mère, alors que je n'avais que 10 ans, a fait naître en moi la hantise d'être abandonné. Depuis, j'ai perdu Geneviève et mon père, et à présent, Richard. Chaque fois, les chimères du passé renaissent de leurs cendres. Quand je me suis endormi en sanglotant, voilà 2 nuits, j'ai compris que je pleurais non seulement mon époux, mais aussi ma mère, ma fille aînée, et cet homme merveilleux qu'était mon père. Toutes ces pertes me déchirent, et je comprends désormais comment le simple fait de me savoir dans le lit de Michael a pu raviver les souvenirs pénibles que Richard conserve de Sarah. On ne cesse jamais d'apprendre. C'est seulement à 41 ans que j'ai découvert cette facette de l'esprit humain. J'ai blessé profondément mon mari, même s'il n'avait pas à redouter de me perdre. La logique n'entre pas en ligne de compte. J'avais oublié à quel point la solitude est pesante. Richard et moi vivions maritalement depuis 5 ans. Sans posséder toutes les qualités de mon prince charmant, il était un compagnon merveilleux et d'une intelligence rare. S'il ne revient pas, ce sera une tragédie. Penser que je ne le reverrai peut-être jamais me torture.